Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous bénissons Dieu qui nous fait grâce, n'est-ce pas? Et nous pouvons le célébrer et le contempler. Aujourd'hui, pour notre méditation de ce dimanche, toujours dans la suite de ce que nous avons vu il y a quelques dimanches, la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Je vous ai parlé des alliances de Dieu. Et je vous ai précisé que nous sommes dans la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance qui est en Jésus-Christ. Et le texte que nous avons lu pour terminer cette prédication sur le thème de l'alliance, c'était Matthieu 22, 33 à 40. Et ce texte dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors, dans la préparation de la Pâque, n'est-ce pas? La semaine qui vient, c'est la semaine de Pâques. C'est un symbole, mais au-delà du symbole, c'est un moment fort. C'est le moment fort de notre alliance avec Dieu. Et donc, je vous invite ce matin à méditer sur un prophète, justement, n'est-ce pas? Le texte dit que ces deux commandements résument la loi et les prophètes. Et nous allons voir comment cette alliance résume aussi ce chapitre 53 qui a été lu du prophète Ésaïe. Chapitre 53 qui a été lu. Que les plus anciens connaissent, n'est-ce pas? Ceux qui sont anciens dans la foi, c'est un chapitre qu'on a tout fait d'apprendre parce qu'il est au cœur de l'action de Jésus-Christ pour nous. Et ce chapitre, peut-être avant ce chapitre, notre actualité nous parle de quelque chose de dramatique une fois de plus. J'aimerais moi aussi, voilà, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'Église, par rapport à cette actualité dramatique, ce drame qui a encore atteint le pays de la France, ce terrorisme, ce gendarme qui a donné sa vie. Ce gendarme qui a donné sa vie pour un otage. C'est vrai, on dit que c'est leur métier, mais ça n'arrive pas tous les jours. Connaissait-il le Seigneur? J'en sais rien. Je veux bien croire qu'il connaissait le Seigneur. Mais il a donné sa vie. Et ça nous parle, n'est-ce pas? Alors, dans ce contexte d'Ésaïe, savez qu'Ésaïe, il a eu son temps de prophétie bien longtemps avant Jésus-Christ. On dit que le ministère d'Ésaïe a commencé en 739 avant Jésus-Christ et s'est terminé vers 400 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un long ministère. Sur plusieurs années, il a connu plusieurs rois d'Israël, notamment de Juda. Il a prophétisé pendant trois grandes périodes de l'histoire d'Israël. Avant l'exil, donc les chapitres 1 et 39 parlent de ces prophéties de ce serviteur de Dieu. Et pendant l'exil, chapitres 40 à 55 et puis les chapitres 56 à 66, c'était du retour de l'exil. C'est des textes forts, c'est des textes qui marquent. Sept siècles avant la venue de Jésus, le Seigneur a parlé par la bouche d'Ésaïe. Et c'est incroyable lorsqu'on lit ces chapitres. On a l'impression qu'ils ont été écrits quand Jésus était présent au premier siècle. Et pourtant, c'est 700 ans avant. Et surtout le chapitre 53. Ésaïe l'écrit dans une période où le peuple est dévasté. Où le peuple va être déporté en exil. Les royaumes d'alors, c'était les royaumes d'Assyrie et les royaumes babyloniens avaient une politique. Lorsqu'ils étaient victorieux sur un peuple, ils les déportaient, ils les enlevaient de leur territoire et les emmenaient dans d'autres territoires pour casser le peuple, pour détruire l'identité du peuple et pour ne pas redonner au peuple une chance de se venger ou de se relever. Et c'est ce qui est arrivé en Israël. Le peuple du Nord a été déporté et ensuite Juda aussi. Mais quand vous lisez Ésaïe, il parle de tout ça. Et c'est vrai que dans cette période, Ésaïe parle du serviteur de l'Éternel. C'est le thème qu'il utilise. À partir du chapitre 40, il dit le serviteur de l'Éternel. Peut-être que lui, le prophète, il savait qu'il parlait du Messie. Mais ceux qui l'écoutaient ne savaient pas de qui il parlait. Le serviteur de l'Éternel. Ce serviteur souffrant. Et dans cette période, le peuple s'est posé plein de questions. Parce que le peuple de Dieu est un peuple qui, dans son histoire, a été toujours victorieux à cause de l'Éternel des armées. Et là, ils étaient cassés, détruits. Et il y avait une crise militaire, notamment, comme je l'ai dit, les Babyloniens, les Assyriens avaient asservi ce peuple. Les rois d'Israël et de Juda payaient même un tribut pour être protégés par l'Assyrie ou par les Babyloniens. Et certains prophètes ont dénoncé. Ils ont dit, mais votre protection n'est pas dans le roi d'Assyrie. C'est pour ça qu'on a les psaumes qui disent ne te confie pas dans l'homme. Donc c'est de cette période-là qu'il parlait. Il disait au roi d'Israël et de Juda, votre confiance et votre sécurité n'est pas dans ces rois puissants, mais c'est en Dieu. Mais ces rois-là, c'était des politiciens aussi. Ils disent, oui, d'accord, Dieu est là, mais quand même, il faut tisser des alliances, parce que sinon, si on n'est pas protégé par la Syrie, c'est les autres peuples qui vont nous attaquer. Et cette crise posait des questions au peuple. Et c'est ce qu'on a appelé la crise de la foi. Il y a eu cette crise de la foi. Et les questions que le peuple se posait en ce moment-là, c'était, Dieu est-il le Dieu souverain de l'histoire? Parce que les nations païennes sont en train de prendre la victoire sur son peuple. Est-ce que Dieu est encore victorieux? Vu que nous avons été vaincus. Mais quel est le rôle du peuple de Dieu dans le monde? Puisque ce peuple n'existe plus. Il a été vaincu, il a été mis en captivité. Il se posait la question, quel est notre rôle encore? Puisque nous n'existons plus en tant que nation. Notre nation a été touchée. Est-ce que quand Dieu juge son peuple, il le rejette? Et quelle confiance Israël peut faire encore en son Dieu? Quel est l'avenir? Parce que Dieu a dit que le trône de David subsisterait, n'est-ce pas? Que la royauté davidique serait de génération en génération. Et là, il n'y a plus de roi. Il se pose la question. Et enfin, c'est une question plus profonde, théologique. Ils disent, est-ce donc que les idoles des païens sont plus grands que l'Éternel des armées? Parce que ces peuples païens nous ont vaincus. Est-ce que ça veut dire que les dieux de ces peuples sont plus forts que notre Dieu? Ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Alors Ésaïe, lorsqu'il commence à prophétiser, surtout à partir de ce chapitre 40, il dit des choses claires, précises, n'est-ce pas? Mais est-ce que le peuple comprend? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe, quand il prophétise en ce moment-là, est-ce que le peuple peut croire? Et c'est pour ça qu'il commence son chapitre 53 en disant « Qui a cru ? Qui a cru à ce que nous sommes en train d'annoncer ? Qui peut croire ?» Mais avant le chapitre 53, il a déjà donné quelques indications pour dire pourquoi Dieu parle maintenant. La justice et la souveraineté de Dieu, le seul vrai Dieu, ne pouvaient être pareillement prouvés que si les événements avaient été annoncés longtemps à l'avance. Parce que si Dieu n'avait pas annoncé que ça arrivait et que Dieu dit c'est moi qui l'ai fait, les gens disent oui, mais c'est trop facile. Maintenant que c'est arrivé, tu dis c'est toi qui l'as fait. Comment on peut savoir que c'est toi? Mais si c'est annoncé longtemps à l'avance et que ça se manifeste, alors on dira c'est vrai, l'Éternel l'avait dit. Et Ésaïe dit au chapitre 41, verset 26, il dit qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Il dit c'est moi. C'est moi le serviteur éternel qui vous annonce ces choses. De sorte que quand ça va arriver, vous allez dire c'est vrai. Au chapitre 42, verset 9 et verset 23, il dit, voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce deux nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Parce qu'il avait déjà prédit l'exil avant que ça n'arrive. Mais le peuple n'avait pas cru. Il dit ça, je vous l'avais dit. C'est déjà arrivé. Soyez sages. Maintenant, je vais vous annoncer ce qui va arriver encore de nouveau. Chapitre 43, versets 9 et 12, il dit, qui d'entre eux, donc il parle des dieux païens par leurs prophètes, qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Et quand le prophète dit c'est moi, en fait, il dit c'est Dieu, parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Chapitre 44, il dit, qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve? Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Je vous prends témoin. Parce que l'heure est grave et ce que je vous annonce, c'est des choses que Dieu va faire. Mais je vous ai déjà annoncé des choses qui ont été manifestées par Dieu. Mais vous n'avez pas cru pour autant. C'est pour ça que Dieu dit Israël incrédule. L'incrédulité, c'est pas quand on ne croit pas une seule fois. C'est quand il y a tellement de signes et qu'on ne croit pas quand même. Et tout le chapitre 52, à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 53, verset 12, dépeint de manière précise la personne et l'œuvre du serviteur souffrant. Et c'est incroyable parce que le Nouveau Testament cite ce chapitre et et Jésus lui-même cite Ésaïe pour manifester son ministère. Ce serviteur souffrant au temps d'Ésaïe, on ne savait pas que c'était Jésus. C'est 7 siècles avant, 700 ans. Donc on pensait que c'était Israël parce que quelquefois Dieu appelle Israël mon peuple qui me sert. Certains ont cru que c'était le roi d'Assyrie, Cyrus, parce que quelquefois Dieu dit je vais me servir de roi païen pour éduquer mon peuple. Et quelquefois, il a appelé soit Cyrus, soit Nabucodonosor, mes serviteurs. Donc on croyait que c'était un grand roi, notamment, qui allait aussi être un libérateur. Mais non. C'est le Nouveau Testament qui nous explique qu'en fait, c'est de Jésus qu'il s'agissait. Et c'est Jésus lui-même qui en parle aussi. Parce que les caractéristiques qui sont dites de ce serviteur, c'est littéralement ce que Jésus a été. Il dit, mon serviteur. Et Jésus a toujours dit, je suis venu pour servir. N'est-ce pas? Et Zacharie aussi, quand il parle du Messie, il dit le serviteur, le Messie. Le thème Messie, c'est celui qui est envoyé par Dieu, le serviteur de Dieu. Le thème de toute ma joie, hein, on le voit dans Ésaïe. Ésaïe prend ce thème en hébreu et qu'on retrouve lorsque Dieu parle lors du baptême de Jésus, n'est-ce pas? Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit. Jean chapitre 17. Jésus dit, je vous enverrai l'esprit. N'est-ce pas? Il établira le droit sur tous les peuples. C'est le roi, juste, juge. Et le caractère universel de son œuvre, ce n'est pas qu'à Israël, mais il est venu pour toutes les nations. Hein? Et le texte dit que toutes les nations reconnaîtront en lui le grand roi. Et ce serviteur accomplira sa mission pas avec la violence, avec la non-violence. Aujourd'hui, selon la liturgie, on célèbre la rentrée de Jésus à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem sur un ânon. Pourquoi? Parce que l'ânon, c'était un symbole de paix. Le cheval était une arme de guerre à l'époque. Donc quand on rentre comme ça, c'est les généraux, les guerriers qui rentraient dans des grandes villes avec un cheval pour dire que voilà. Mais lui, il est rentré avec un ânon pour dire qu'il était un homme de paix. Il accomplira sa mission avec la non-violence. Et on le voit dans tout le ministère de Jésus, n'est-ce pas? Il prendra soin des faibles, des opprimés et de ceux qui ploient sous le poids de la souffrance. Et on le voit dans ce thème aussi, du chapitre 53. Alors le prophète commence par souligner, oui la diapo d'après, le prophète commence par souligner l'incrédulité du peuple de Dieu, d'Israël. Versets 1 à 3, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vas-y plus loin. Encore. Voilà. Le prophète annonce et il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le Dieu puissant? Qui peut le reconnaître alors que le peuple est terrassé, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il dit dans ces trois versets, c'est de dire simplement que malheureusement, son apparence, l'apparence du serviteur, n'attire l'attention de personne. Parce qu'il ne sera pas avec les honneurs des hommes. Il ne viendra pas peut-être comme un grand roi puissant. Parce qu'il est comme une faible plante qui vient à peine de pousser, qui n'a même pas encore donné de fruits. Est-ce qu'on prête attention à une faible plante? Non. C'est ce qu'il appelle un rejeton, hein, une plante qui est sortie de nulle part et qui n'a pas d'intérêt. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Hein, ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle David. Quand Dieu a dit à Samuel d'aller oindre un roi, quand il est arrivé, il a vu les fils d'Isaïe. Il dit, ah bah c'est lui-là. Il y avait un qui était beau et tout. Dieu dit, Samuel, c'est pas lui. Et tous les enfants passent, il dit, c'est pas lui. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas un autre fils? Oh oui, il y a un petit dernier, mais lui, il est là-bas avec les brebis. Il dit, c'est lui. Et c'est là qu'on a le test. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Car l'apparence est trompeuse et la grâce peut être un piège. Son apparence n'a parlé à personne, n'est-ce pas? Et puis, verset 4, verset 6, là, il parle du sens profond, du sens théologique de la souffrance du serviteur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui le péché de nous tous. On le voit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, n'est-ce pas? C'est en lien avec le ministère de guérison de Jésus, ce passage. Parce que Jésus a guéri, n'est-ce pas, des maladies incurables de l'époque. Pour attester que ce texte parlait de lui, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour ça que quand il guérissait, il dit, allez voir le souverain sacrificateur, allez attester que le Messie est bien rentré dans le monde et qu'il guérit. Il prend sur lui les souffrances des hommes pour y mettre un terme. Peut-être pas physiquement, mais la souffrance la plus terrible, c'est la souffrance de la Guéhenne, du feu de l'enfer. Il y met un terme. Il a été percé. Hein, il a été percé. Il a été percé. Il a été meurtri. Hein, le thème est un thème profond. Il a été... Littéralement, hein, la passion du Christ, comme on le dit, on le verra tout le long de la semaine. Il y a le jeûne et prière, mardi, mercredi, jeudi. On va passer du temps dans la prière pour nous encourager à grandir. Mais il a été percé. Le prophète est en train de dire que Jésus, que le serviteur souffrant, va se sacrifier. Et c'est littéralement dans la tradition juive, comme on sacrifiait les animaux, on les égorgeait pour les sacrifier sur l'autel avec le sang qui verse et tout. Donc c'est cette même cruauté que Jésus a subie. Parce que le péché appelle la mort. Et c'est pour ça que Dieu a demandé les sacrifices, pour que les hommes réalisent que quand on pêche, on prend la vie d'un animal pour réparer son péché. Et là, c'est la vie d'un homme. Mais on ne va pas lui prendre sa vie. Il va donner sa vie. Il va se substituer à qui ? Au coupable. C'est terrible de dire ça. C'est comme si, dans l'actualité qui nous concerne là, avec ces attentats, si quelqu'un prenait la place du terroriste. Pour mourir à la place du terroriste. Ça allait nous choquer, non? Tous, on serait choqués, mais comment? Qui peut mourir pour un terroriste? Mais le texte dit pareil. Le terroriste est un coupable. Et le texte dit quoi? Le texte dit, il s'est substitué au coupable que nous sommes. Il dit encore, se substituer à un innocent, on peut comprendre. Comme ce que ce gendarme a fait. Mais se substituer à des coupables. Ah bah, franchement, ça il faut le faire. Et c'est ce qu'il a fait, le serviteur souffrant. Il s'est substitué aux coupables. Il a enduré à leur place le châtiment que valait le péché de ces coupables-là. Et il leur a procuré la paix. Et il les a guéris des conséquences de leur péché. On peut encore défendre des gens qui sont défendables, n'est-ce pas? Mais quand les gens défendent les indéfendables, l'avocat du dernier terroriste vivant des attentats du Bataclan, tout le monde lui en veut. Tout le monde dit, mais quand? C'est pas indéfendable. Et lui, il dit, chacun a droit à un avocat, selon notre justice. Essayons de repenser les choses en les repensant correctement. Ça va peut-être nous aider à voir tout l'intérêt de ce que Jésus a fait. À la croix, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, à la croix, dans 1 Pierre 2, 24, 25, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Pierre cite Ésaïe comme pour confirmer que Jésus était vraiment celui dont Ésaïe parlait. Le prophète précise au verset 6 que le peuple est coupable, n'est-ce pas? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous sommes coupables. Au lieu de vivre dans la communion avec l'Éternel et obéir à ses commandements, chacun vivait comme bon lui semblait, loin de l'Éternel. C'est ce qui a valu l'exil au peuple d'Israël. Et c'est ce qui vaut à chacun d'entre nous lorsque nous ne connaissons pas Dieu, le châtiment de Dieu, parce que nous vivons loin de Dieu. Parce que chacun fait sa petite affaire. C'est pourquoi la souffrance de Christ est une souffrance expiatoire, c'est-à-dire que la souffrance du Christ est là pour finalement payer à notre place. Il expie nos fautes, c'est-à-dire qu'il prend nos fautes et il est quelque part, c'est comme si il payait notre dette. C'est ça l'expiation. Tu es endetté, je dis, je rachète ta dette. Donc du coup, toi tu n'es plus endetté, mais c'est moi à nouveau qui suis endetté à ta place. Toi tu pars, ton compte est à zéro. Et moi, mon compte, il a moins quelque chose. C'est ça l'expiation. Il a expié. Il a fait en sorte que nos fautes soient pardonnées par Dieu. Il a payé le prix. Et la Bible dit que le salut des hommes a coûté, quoi comme prix ? A coûté la vie du Fils de Dieu. C'est que Dieu lui-même a refusé à Abraham. Il a fait lui-même. Lorsqu'il a dit à Abraham, je vais voir si tu es fidèle. Va sacrifier Isaac. On dit à Abraham, prit l'enfant et ses serviteurs, il prit le bois et le feu et il partit. Et en route, Isaac dit, papa, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais où est l'animal pour le sacrifice? Et Abraham dit, Dieu se pourvoira. À ce moment-là, Abraham ne savait pas si Dieu se pourvoirait ou pas. Je crois que c'est une réponse qu'on donne aux enfants quelquefois quand c'est compliqué. J'imagine Sarah, dans quel état elle était à la maison lorsqu'Abraham partait avec Isaac. Il n'y avait que lui qui savait, même les serviteurs ne savaient pas. Il dit, restez là, il monte avec l'enfant. Comment cette lutte s'est passée, on n'en sait rien, mais en tout cas, il arrive à ligoter l'enfant. Il fait le feu de bois, il met l'enfant. Et là, avant qu'il ne fasse la bêtise, Dieu dit, arrête. Je suis maintenant dans la confirmation que tu es fidèle. Mais je le savais. C'est pour ça que j'ai déjà préparé la brebis. Regarde dans le buisson. Prends l'animal qui est là à la place de ton fils. Parce que je ne suis pas comme les dieux païens. Je ne suis pas Moloch. Je ne demande pas de sacrifice humain. Mais c'était juste pour tester ta confiance. Et lui, il livre son fils. Parce qu'il n'y avait que ce prix-là. Le serviteur fait l'expiation, ce qui était nécessaire pour le salut. Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de péché. Parce que Dieu a déjà condamné le péché en Éden. Et comme il est juste, Dieu, c'est pas, vous savez, il y a des pays où quelques autorités, quand ils veulent faire des choses, ils bidouillent la loi, la constitution. Hein? Dieu, il est juste, il bidouille pas. Lorsqu'il a dit quelque chose, il s'en tient à ça. Mais il cherche une solution nouvelle pour ne pas être en contradiction avec sa propre loi. Et pour ne pas être en contradiction avec la faute en Éden, il a dû payer le prix lui-même en donnant son fils. Versets 7 à 9, ça dépeint la mort et l'ensevelissement du serviteur. C'est tellement précis que les critiques, ceux qui critiquent la Bible, disent que ce n'est pas possible. Ce texte, il a été écrit longtemps après. Parce que les détails qui sont dans ce texte, et certains critiques disent, ouais, mais ça, les chrétiens, ils ont dû retoucher, parce que franchement, c'est tellement précis. Jésus a été tué en deux bandits. On l'a tué comme on tuait les grands criminels de l'époque. Et le texte dit, il a été mis au rang des malfaiteurs. Ah bah, ça ils l'ont écrit après. Son tombeau a été mis parmi la sépulture des riches. Pareil, c'est Nicodème qui demande le corps de Jésus et qui le met dans un tombeau des dignitaires. Oh, quand même, ils ont dû retoucher ces textes-là. Parce que comment ils avaient pu savoir 700 ans avant que les choses vont se passer textuellement comme ça? Mais ce qui est formidable, c'est que tous les experts, qu'ils soient chrétiens ou pas, confirment que ce texte, il est très ancien. Il est très ancien. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce texte, il est daté effectivement du 7e siècle avant Jésus-Christ. Après, on peut avoir la foi, on ne peut pas avoir la foi, mais on peut avoir l'honnêteté scientifique de dire que ce texte, il est daté, il est ancien, il n'a pas été écrit au temps où Jésus était vivant. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit un mot, que ce soit devant les grands prêtres qui l'ont accusé, que ce soit devant Hérode, devant Ponce Pilate, pas dit un mot. Il a accompli littéralement ce texte. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis qu'on tond et qui ne dit rien, il n'a pas dit un mot. Il a eu juste une parole. Il dit, si j'avais voulu être libéré à l'heure où je te parle, il y a des milliards d'anges qui sont postés et qui ont dû intervenir. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. On lui a arraché la vie pour dire qu'on l'a jugé à tort, mais qu'il y a eu un jugement. Et qui s'est soucié de lui? Qui s'est soucié de lui, au contraire? Qui s'est soucié de lui? À cette femme qui pleurait lorsque Jésus montait avec sa croix, il dit, ne pleure pas sur moi. Pleure sur vous plutôt. Il n'y avait que ses disciples qui se souciaient de lui. Il n'y avait que les 12. Même que eux, encore quand Jésus est mort, c'était un peu, oulala, est-ce qu'il ne nous a pas mis dans un beau drap? Comment on va s'en sortir maintenant qu'il nous a fait faire tout ça et qu'il n'est pas là? Et le texte dit qu'ils se sont cachés. Et que les autres qui n'étaient pas parmi les 12, ils disent, de toutes les façons, c'était une belle histoire, mais chaque histoire a une fin. Alors les disciples d'Emmaüs ont dit, ils disent, ok, on a vécu un bon moment, c'était bien, maintenant on rentre chez nous dans la réalité. Et le texte dit qu'en chemin, lorsque Jésus les rencontre, il marche avec eux, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe. Quand même, tu ne lis pas les actualités, toi? Le Jésus que nous, on a suivi pendant 3 ans, il est mort, il nous a dit qu'il allait ressusciter. C'est le 3e jour aujourd'hui, il n'est pas ressuscité. Nous, on rentre chez nous. On a plié bagage. Il était dit que prenant la parole depuis les prophètes, Jésus l'explique. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Emmaüs. Ils disent, tu as quelque chose de particulier. Reste avec nous ce soir. Parce que tu n'as pas encore fini l'histoire. Et dit, il raconte l'histoire et il rompt le pain. Et Jésus avait une particularité quand il rompait le pain. C'était lui seul qui faisait ça. Et quand il a rompu le pain, ils ont reconnu que c'était lui. Ils ont dit à l'instant, il a disparu. Ils ont pris leur pied à leur cou, reparti à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. Il est ressuscité, on l'a vu, il était avec nous ce soir. On est tous comme ça, n'est-ce pas? On est un peu tous comme ça. Et Dieu a glorifié son enfant. La diapo d'après. 10 à 12 dit que Dieu l'a glorifié, que Dieu s'est manifesté. Il a plu à Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a confié cette mission à Jésus, cette mission de venir. Et le fait que le texte dit qu'il verra la lumière, en fait, le texte dit qu'il va ressusciter. Donc déjà la résurrection était annoncée en Ésaïe 53. Il aura une postérité. Comment quelqu'un qui meurt peut avoir une postérité? C'est de dire qu'il va non seulement être ressuscité, mais son ministère sera tellement étonnant que les rois seront étonnés, que les peuples viendront. Beaucoup le connaîtront. Bref, le Seigneur ressuscitera des gens nombreux. Et on voit là, au verset 12, il s'est dépouillé, n'est-ce pas? Il s'est dépouillé. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même. Et Philippiens reprend ça. Philippiens dit parce qu'il s'est dépouillé. Il s'est livré lui-même à la mort. Les textes de Philippiens dit parce qu'il s'est dépouillé jusqu'à la mort de la croix. Et comme je disais, il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, bien-aimés, ces textes nous préparent, n'est-ce pas ? Nous montrent avec certitude ce chapitre 53 que 7 siècles avant, 700 ans environ avant la venue de Jésus-Christ, appelé le serviteur de l'Éternel, on apprend que les souffrances du serviteur de l'Éternel aboutiront à sa mort et que sa mort est un acte fondamental de sa mission. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de péché. C'est de nos meurtres sûrs qu'il s'est chargé. C'est de nos péchés qu'il a été mis comme un coupable. Le prophète souligne à la fois l'intensité des souffrances et la grandeur de la gloire que Dieu va donner à son serviteur. Il va se substituer au coupable. Le serviteur va endurer à leur place le châtiment du péché, puis il ressuscitera pour leur procurer le pardon des péchés, c'est la justification et la guérison des conséquences du péché. C'est l'œuvre de salut que l'Éternel va accomplir. Alors le prophète dit quoi ? Le prophète dit que toutes ces paroles sont là pour confirmer que quand elles vont arriver, que ce que Dieu dit, ça m'est accompli aussi. 7 siècles avant, il a dit, et nous verrons dimanche prochain comment ça s'est réalisé à la lettre, à la Pâque, à la lettre, à la Pâque. La parole de Dieu est vraie. Le monde peut nous dire tout ce qu'il veut sur cette parole. Nous-mêmes, notre foi, parfois, peut nous balloter par rapport à cette parole, mais elle est la vérité. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Et nous l'avons vu là, dans cet exemple d'Ésaïe. Moi, j'aimerais terminer maintenant en disant, voilà, Seigneur, fortifie l'Église. Que ce temps de Pâques soit un temps où chacun de nous revisite sa foi, se repositionne dans sa foi. Regarde à ce sacrifice et dis, Seigneur, tu m'as sauvé, quelle grâce, comme l'a dit Adrien. Mais que cette grâce ne reste pas stérile. Que cette grâce ne reste pas stérile. Qu'elle porte de fruits. Qu'elle soit une foi vivante en Jésus-Christ. Que le monde voit. Parce que c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et l'Église est là pour dire au monde que Dieu tend la main. Que Dieu veut prendre votre place en Jésus-Christ. Que Dieu a donné son salut. Amen. Merci Seigneur. Juste que ces paroles du prophète Ésaïe nous aident à rentrer dans cette semaine avec humilité, avec profondeur, et que nous nous saisissions de cette occasion nouvelle pour renouveler nos foi, notre foi en toi. En tant qu'individu, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, mais aussi en tant qu'Église, Seigneur. Une église qui est au bénéfice du serviteur souffrant qui a donné sa vie pour nous. Béni sois-tu en Jésus.